Pas besoin de vous faire un dessin, les mouvements de population créent des tensions, on le sait, on le voit, on le vit. Ce qu'on appelle la crise des migrations est bien l'un des sujets politiques les plus polarisants, les plus délicats, un peu partout, à commencer par l'Europe et les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces crispations entrent en contradiction avec une liberté à laquelle la plupart des gens sont attachés aussi, la liberté individuelle de se déplacer. D'ailleurs, est-ce que c'est un droit fondamental? Est-ce qu'on devrait avoir le droit de choisir où on veut vivre, tout en respectant évidemment la propriété? Eh bien, certaines personnes en sont convaincues, Joël Cachin.
Oui, elles soutiennent cette idée d'ouvrir toutes les frontières pour laisser les personnes se déplacer librement.
The Wall Street Journal in 1984 proposed amending the US Constitution by adding five words. There shall be open borders.
Ouais, la libre migration était déjà défendue en 1984 par le Wall Street Journal. C'est ce que dit Jackie Stevens, professeure de sciences politiques à l'université Northwestern de Chicago. Elle nous le disait à l'instant, le quotidien de la finance proposait alors d'ajouter cinq mots à la constitution américaine. Les frontières doivent être ouvertes. Cette vision assez controversée était relativement répandue aux États-Unis dans les années 90. Elle était soutenue notamment par Bill Gates.
Et alors qu'est-ce qui a changé?
Les attentats du 11 septembre ont bouleversé la vision de l'autre, de l'immigré. Selon certains experts, ils sont l'une des causes du protectionnisme grandissant aux États-Unis, un protectionnisme qui ne fait pas du bien à l'économie et c'est l'un des arguments utilisés par beaucoup de défenseurs de la libre migration. Jackie Stevens.
Il y a une vraie tendance pour les personnes issues des pays pauvres d'Amérique latine à venir s'installer ici et à rester ancrées dans le pays à cause des patrouilles aux frontières. Les gens craignent que s'ils retournent au pays, ils ne puissent plus revenir ensuite aux États-Unis. Il y a donc un mouvement à sens unique. Mais si on avait la libre circulation, il y aurait moins cette tendance à rester de manière statique dans les pays riches. Au lieu de cela, les gens seraient plus à même d'utiliser leurs richesses et leurs compétences acquises ici pour retourner dans leur pays d'origine et aider l'économie et leur famille.
Alors, on entend l'argument économique pour ouvrir totalement les frontières aux personnes, ça favoriserait les échanges comme c'est le cas avec les marchandises.
Oui, c'est pour ça que l'idée de la libre migration est soutenue par certains économistes libéraux. D'une manière générale, ils militent pour moins d'États, moins de superstructures, moins de règles et pour ramener les responsabilités à un échelon quasi individuel. C'est la vision de Pascal Salin, économiste et professeur honoraire à l'université Paris-Dauphine.
On peut se déplacer librement à travers le monde, mais à condition de ne pas porter atteinte aux droits légitimes d'autrui, qui sont en particulier, bien sûr, les droits de propriété. Notre problème consiste à savoir qui peut exprimer le droit d'exclusion. Le droit d'exclusion, à notre époque, il n'est pas de nature individuelle, c'est l'État qui décide d'accepter ou non telle catégorie de personnes. De ce point de vue-là, il est devenu propriétaire d'une grande partie de l'espace.
L'État propriétaire d'une grande partie de l'espace. Mais avant que les frontières et les passeports existent, ça marchait comment?
Bien, avant le 19e siècle et l'instauration des États-nations, l'homme était bien plus libre dans ses déplacements qu'aujourd'hui, principalement parce qu'il existait finalement peu de moyens de le contrôler. Et c'est surtout la Première Guerre mondiale qui a créé le besoin de contrôle, des contrôles qui deviennent alors de plus en plus systématiques et efficaces. Francesco Garuffo, historien des migrations à l'université de Neuchâtel.
L'État-nation impose une relation très forte entre pouvoir, territoire et groupe de personnes qui ont le droit de séjourner ou non sur ce territoire. Au 19e et surtout 20e siècle, un autre élément vient s'ajouter à ça, c'est l'émergence de l'État social qui va amener à la définition des ayants droit à l'État social. Donc du moment que l'État a fourni des prestations, on doit savoir qui a droit à ces prestations. Là, l'enjeu devient beaucoup plus conflictuel puisque c'est aussi l'accès à certaines ressources communes qui est mis en jeu.
Aujourd'hui, plus de 243 millions de personnes vivent à l'étranger. Alors, est-ce que le concept d'État-nation a encore du sens? Francesco Garuffo.
Les États-nations, d'un certain point de vue, sont dépassées parce que les activités humaines transcendent très largement les frontières. D'un autre côté, la réalité politique reste celle des États-nations et on a effectivement une tension entre une mobilité de plus en plus rapide et très valorisée lorsqu'on parle de compétences. D'un autre côté, on se trouve aussi avec cette mobilité à deux vitesses, avec des populations qui sont très limitées dans leur mobilité. Peut-être qu'on verra des évolutions, on en a déjà vu, ne serait-ce que la constitution d'espaces supranationaux comme l'Union européenne. D'un autre côté, en ce moment, le pouvoir des États-nations ne semble pas forcément particulièrement affaibli.
Ouais, pas particulièrement affaibli, mais Joël, ils n'ont pas non plus les pleins pouvoirs en matière de migration, les États.
Et non, l'État peut décider dans une certaine mesure qui a le droit d'entrer sur son territoire, mais il n'est pas le seul aux commandes. Vincent Chetaille, professeur de droit international et directeur du Centre des migrations globales au Graduate Institute.
L'État n'a pas nécessairement le dernier mot, c'est-à-dire que le droit international impose aux États des obligations. Le droit de quitter son pays est une liberté fondamentale qui est consacrée dans plus d'une vingtaine de traités internationaux. Le déplacement est autorisé par le droit international et il est même considéré comme un droit fondamental consacré aussi bien par les traités que par la coutume internationale.
En fait, tout dépend donc des traités qu'un pays décide de ratifier.
Et alors la libre migration sur le plan mondial, c'est possible ?
Bien, elle existe déjà à différentes échelles. Sur quasiment chaque continent, on trouve une multitude d'accords de libre circulation des personnes, souvent avec un droit de s'établir et de travailler. L'exemple le plus proche, c'est le nôtre, l'Europe. Après, pour ce qui est d'une libre migration mondiale, est-elle une utopie ? Eh bien, je me contenterai de paraphraser Vincent Chetaille qui me disait hier « Tout est possible, finalement, ce n'est qu'une question de volonté politique ».